Bonjour à tous. La deuxième ville de France va changer de visage. Tous les Marseillais de plus de 11 ans doivent porter un masque à partir de ce soir 23h quand ils sortent. Le préfet des Bouches-du-Rhône l'annonçait hier soir. Il décide également de fermer tous les restaurants et les bars de la ville la nuit entre 23h et 6h du matin et ce jusqu'au 30 septembre. Les masques à Marseille et toujours dans les collèges et les lycées en France. À ce propos, le gouvernement a tranché hier sans détour. Il n'est pas question de distribuer gratuitement des masques à tous les élèves du pays. Nous ferons le tour dans le journal de 6h30 des collectivités qui ont décidé de prendre le relais. Dans une demi-heure également, nous irons en Suisse, à Genève, où là, dans les restaurants, les clients devront obligatoirement montrer patte blanche avant de s'attabler. Nom, date de naissance, numéro de téléphone, il va falloir tout donner pour mieux tracer les potentiels malades et leurs contacts. La mère de Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, grièvement blessé par des tirs de policiers dimanche, sa mère donc appelle au calme aux États-Unis. Cette nuit encore, une nouvelle manifestation a eu lieu dans le Wisconsin avec quelques affrontements avec la police. Jacob Blake restera paralysé à vie après ses blessures. Les États-Unis, dont le chef de la diplomatie Mike Pompeo, est en campagne pour soutenir la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. À ses côtés, il y a aussi l'épouse du président Melania Trump, tous deux têtes d'affiche de la convention républicaine qui se tient jusqu'à demain soir. Tous deux promettent d'ailleurs que Donald Trump aime, je cite, son pays et sait comment accomplir les choses. Elle pourrait être emprisonnée par son pays et par le président qui le dirige. La prix Nobel de littérature biélorusse Svetlana Alexievitch, opposante au régime, est convoquée cet après-midi par les autorités, symbole de la pression qui s'accroît sur le mouvement de contestation. Vous l'entendrez à 6h30. Pour l'instant, il est 6h02 sur France Culture.
Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vanrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
Former, réagir, le matin sur France Culture, Guillaume Erner.
Rentrée des classes pour les uns, lutte des classes pour les autres. Les matins sont sur tous les fronts et pas seulement celui de la pandémie. Retrouvez vos rendez-vous d'actualité dès 6h57. Du billet politique à la revue de presse internationale, France Culture vous informe chaque jour et éclaire l'actualité.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi de 7h à 9h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture. Avant de retrouver Toufik Hakem pour le réveil culturel dans quelques minutes, voici votre nouveau rendez-vous, Le Monde Vivant, avec Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Et nous découvrons avec vous, Bruno David, un animal malgache ce matin.
Nous sommes en octobre 2001, au sud-est de Madagascar. Alors que le pays s'enfonce dans une nouvelle crise, une procession partant en direction de l'ouest suit des funérailles. Au fil d'une itinérance de 3 mois, le cortège funèbre va relier des centaines de communautés villageoises. Cette course relais funéraire est celle d'un cercueil de petite taille. Enterre-t-on un enfant ? Lequel mériterait un tel cérémonial ? Un descendant royal ? Non, il ne s'agit pas d'un enfant. On procède aux funérailles d'un ayaï. L'ayaï est un animal étrange des forêts malgaches qui se révéla pour les Européens un véritable casse-tête zoologique. Long d'un mètre, queue comprise, l'ayaï est un animal arboricole nocturne. Sa tête est triangulaire, avec un grand front, de grands yeux, d'immenses oreilles et une petite mâchoire qui termine une face en pointe. Une vraie tête de gremlin. Ses mains sont celles d'un primate, mais il a des griffes au lieu des ongles, sauf sur le gros orteil du pied. Le troisième doigt de la main est fin et démesurément allongé. Ses incisives font penser à celles d'un rongeur. D'ailleurs, il a une longue queue d'écureuil. Cet animal pratique une technique de chasse très inhabituelle. Ses grandes oreilles lui confèrent une ouïe très fine. Il tapote avec ses doigts les troncs des arbres et repère ainsi, au son, les galeries creusées par les larves de coléoptères. Si cela sonne creux, il ronge alors le bois avec ses incisives et introduit son doigt effilé dans la galerie ainsi découverte, délogeant de grosses larves dont il se nourrit. À l'est de l'île, cet animal nocturne est considéré comme maléfique et portant malheur à celui qu'il croise. Il n'est pas apprécié. On lui assigne même des pouvoirs de sorcellerie. Mais un peu plus au sud, il peut être considéré comme un ancêtre, et respectée. La procession est longue et ponctuée de rituels. Le cadavre devient squelette. Ce faisant, l'ayaï devient Razamazi, c'est-à-dire ancêtre sacré, et on le recouvre d'une étoffe rouge. L'identité de l'ancêtre sacré va changer durant le parcours, chose, ossement, divinité, enfant de Dieu. Au bout du périple, il devient une sirène et sera enterré en grande pompe près de Tuléar. Au final, c'est l'ancestralité commune à toutes les ethnies traversées qui est célébrée et qui mobilise alors la conscience nationale, au point que cette procession mêle le sacré et le politique. La science a aussi eu ses rites à propos de l'ayaï. Lorsque Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste du muséum, le décrit en 1798, il le nomme Daubentonia, en l'honneur de Louis-Jean-Marie Daubenton, directeur du muséum. Georges Cuvier, pour une fois, se trompe. Il prend cet animal pour un rongeur et le rebaptise Kéromis, car il récuse que l'on donne un nom d'homme à un tel animal. La postérité lui donnera tort. Le nom de Daubentonia restera et celui de Kéromis sera enterré.
Bonjour, bonjour. Café, biscotte et France Culture pour se réveiller les neurones.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Irréversible, le film de Gaspard Noé avait été l'événement sulfureux du Festival de Cannes en 2002. À sa sortie, le film avait créé un véritable état de sidération et installé la réputation de son auteur. On y voyait le couple glamour du cinéma français de cette époque, couple à la ville comme à l'écran, Vincent Cassel et Monica Bellucci, dans un film d'une rare violence avec une scène de viol en temps réel qui dure 15 minutes à l'écran et qui a causé un sacré scandale sur la croisette. Irréversible avait aussi marqué les esprits par sa mise en scène radicale, sa construction en forme de puzzle, son montage achronique. Le film, on s'en souvient, s'ouvrait sur le drame final et remontait progressivement jusqu'au début de l'histoire. 18 ans après, Irréversible ressort en salle dans une nouvelle version et un nouveau montage qui, cette fois, suit l'ordre chronologique des événements. C'est la même histoire, avec les mêmes protagonistes, mais c'est un nouveau film. Irréversible, inversion intégrale, présenté à la Mostra de Venise l'année dernière. Il sort en salle aujourd'hui et Gaspard Noé est l'invité du Réveil culturel.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Gaspard Noé.
Bonjour.
Alors que la première version d'Irréversible est disponible actuellement sur Netflix, on peut découvrir dès aujourd'hui au cinéma, dans quelques salles, la version dite inversion intégrale ou straight cut. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à retoucher ce film qui a fait votre popularité ?
D'ailleurs, je crois que dans certaines salles, il y a l'ancienne version qui va ressortir, remasterisée aussi. Oui, et du coup, il y aura la possibilité de voir et l'ancienne version sur grand écran et la nouvelle. Il s'avère que quand j'avais tourné le film qui avait été conçu pour être monté à l'envers, on l'avait tourné de manière chronologique parce que c'était plus simple vu qu'on improvisait beaucoup de le tourner de manière chronologique et de l'inverser les 12 blocs séquences qu'il y avait dans le film dans la salle de montage. J'avais monté le film était sorti, il y avait eu le
scandale,
scandale. Après, c'était bon, c'est facile de faire un scandale. Il faut pas. En tout cas, le film a été exposé comme ça, et j'avais jamais conçu le fait de mettre les séquences à l'endroit parce que je pensais que ça pouvait paraître banal. À un moment, Vincent Cassel m'avait demandé « Ah, tu veux pas le voir avec les séquences à l'endroit ?» Il y a aussi Christophe Rossignon, qui était un des deux producteurs, qui m'a dit « Ouais, pourquoi tu tenterais pas un montage à l'endroit ?» Et je voulais tellement pas que le monter à l'endroit et qu'il me disait « Ah, c'est bien comme ça » que j'insistais « Non, 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 on le monte à l'envers, on verra un jour, peut-être en bonus du DVD à venir. » Bon, le film, il est sorti en 2002. Ce qui est vrai, c'est qu'après, remonter le film en DVD, ça m'aurait pris du temps pour le mettre à l'endroit. Mais j'avais vu une fois qu'en Corée, quelqu'un s'était aventuré à mettre en bonus du DVD un remontage à l'endroit qui était tellement mal fait que j'ai commencé à le regarder. Au bout de 15 minutes, j'étais outré, tellement les raccords, ils étaient mal faits. J'avais mis ça dans, au fond de ma tête, que effectivement, un jour, peut-être, je pourrais remonter le film à l'endroit. Et quand on est en train de remasteriser Irréversible pour que le film puisse être exploité en salle et sur des télé HD, parce qu'il n'y a jamais eu de Blu-ray par exemple non plus, on m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bonus sur le Blu-ray à venir. Et j'ai dit, bien sûr, une version à l'endroit, mais je vais tenter voir ce que ça donne. On a récupéré les masters en bonne définition, bien étalonnés de Irréversible. Et en ayant le matériel à disposition dans ma salle de montage, j'ai pris le temps de peaufiner tous les raccords et je l'ai montré à quelques personnes avant même de le rendre à Studio Canal, qui a les droits du film original. Et j'ai demandé à des amis, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont tous dit, putain, on dirait un autre film. L'identification en personnage, elle est inversée. Dans cette nouvelle version, on s'identifie surtout à Monica. Et après, on peut comprendre plus la folie jouée par Vincent Cassel, mais on prend plus de distance parce qu'il paraît beaucoup plus fou dans cette version. Et le personnage d'Albert Dupontel paraît plus héroïque dans cette version que dans l'ancienne. On l'a finalisé, on a bien mixé les raccords. J'ai enlevé 4 minutes qui étaient inutiles, qui étaient des séquences de raccords, mais j'ai pas enlevé un seul dialogue, j'ai pas enlevé une seule action du film. Et après, c'était pendant l'été 2019. Je l'ai proposé au Festival de Venise qui a voulu le programmer. Et du coup, on a fait comme une sortie, comme si c'était un nouveau film, avec Séance à minuit à Venise. Et bon, et maintenant, le film sort enfin en salle, dans les deux versions, et il va sortir en Blu-ray dans les deux versions. Et non, et le truc que je trouve intéressant, c'est que cette version-ci est beaucoup plus empathique, on s'attache beaucoup plus au personnage. Elle est moins sèche, mais elle est plus cruelle. C'est très, très bizarre. Et il n'y avait pas de film que je sache qui avait été exploité à l'endroit et à l'envers. Il n'y a pas de roman non plus dont il y a une version racontée à l'endroit et à l'envers. Et c'est une première mais qui a surgi un peu naturellement. C'est comme si moi, 18 ans plus tard, on était en 2002 et après on inverse le 02 de la fin de 2002. Et en 2020, je sors un lapin jumeau d'un chapeau. Mais je ne savais même pas qu'à l'époque, il y avait un lapin jumeau qui pourrait sortir 18 ans plus tard.
Pourquoi vous dites que le temps révèle tout, Gaspard Noé? Parce qu'on peut aussi avoir une autre lecture. C'est-à-dire que Irréversible, qui avait beaucoup choqué les gens par ses scènes de violence et de sexe, cette fameuse scène de viol qui durait près d'un quart d'heure, est-ce que vous pensez que, en remettant les scènes à l'endroit, le côté dramatique y mis en valeur, et c'est une manière aussi de répondre à vos détracteurs que c'est un montage post-MeToo, pour aller très vite?
Je crois qu'il y a une différence entre un drame et une tragédie. Un drame, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, et donc cette version est un drame. L'ancienne version d'Irréversible était une tragédie, parce qu'on savait dès le début qu'est-ce qu'il allait se passer à la fin. Et on remontait dans le passé, dans les tragédies grecques, on connaît la fin. C'est comme le Titanic, on sait que au début du film que le Titanic est heurté à un glacier et que tout le monde va mourir. Mais après, on regarde le déroulement des événements. Il n'y a pas de raison particulière à sortir le film maintenant après tout ce qui s'est passé avec MeToo. C'est un peu une coïncidence que le film soit pas. Qu'on m'ait pas proposé de faire le Blu-ray il y a 4 ans, donc la perception était différente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce film, aujourd'hui, sera impossible à faire. De même qu'il était à moitié impossible à faire à cette époque-là.
Pourquoi?
À l'époque, on l'avait tourné. Déjà, il n'y avait pas de scénario. Il s'est fait beaucoup sur le name-dropping. Name-dropping, ça veut dire de citer les noms des stars du film. Donc, on avait dit, ouais, un film avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Et en plus, les producteurs, ils avaient eu des grands succès à l'époque, Richard Grandpierre et Christophe Rossignol. Et du coup, Studio Canal avait mis l'argent et on avait lancé un film sans scénario. Et on l'avait tourné dans la joie et la bonne humeur. Après le film, représente des actes de violence qui sont très bien joués et très audacieusement interprétés par les comédiens, mais le film s'est fait dans la joie la plus totale. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que tout est tellement plus filtré au niveau du scénario, de ce qu'on peut diffuser, pas diffuser, ce qu'on peut dire ou pas dire.
Sauf que vous avez prouvé, Gaspard Noé, que vous continuez à explorer les thèmes qui ont fait votre réputation sulfureuse. C'est-à-dire que vous représentez toujours la violence, le sexe dans tous ses états glauques, la drogue, de mettre à mal le spectateur, comme si l'important pour vous était de faire jaillir le malaise en pleine lumière.
Mes films font moins peur que le journal télévisé, non? Pourquoi je regarde les infos du matin, surtout en ce moment, tu te dis waouh.
Mais qu'est-ce qui vous anime?
Il faut, ouais. Si tu veux pas déprimer, surtout, il faut pas goûter les infos, quoi.
Mais dans votre cinéma, qui est tout à la fois un cinéma expérimental et poétique entre Pasolini et Kubrick, mais aussi entre le film de genre, c'est-à-dire le film gore, le film porno, le revenge movie, comme on dit, et qui peut très bien coller pour Irréversible, et le film d'auteur, qu'est-ce qui vous anime le plus, Gaspard Noé ?
Dans ce film, tout acte de violence est totalement simulé. Personne n'a blessé personne pendant le tournage et les comédiens riaient tous beaucoup à la fin de chaque prise et me demandaient est-ce que tu peux nous repasser la prise, etc. Parce qu'ils disaient putain, qu'est-ce que ça a l'air crédible. Quand on fait des films de fiction, on n'est pas en train de faire des documentaires. On essaye que le truc soit crédible. Un bon magicien fait des trucs qui sont crédibles. Voilà. J'essaie d'être bon magicien.
Gaspard Noé, vous, on vous a découvert avec votre premier moyen métrage, c'était en 1992, donc 10 ans avant la première version d'Irréversible, pour Carnet, hein, où c'était là aussi un drame, mais déjà vous imposiez votre style. Ça a été accueilli d'une manière très diverse par la critique. J'ai retrouvé d'ailleurs une critique de Frodon, qui travaillait à l'époque pour le quotidien Le Monde. Et voilà ce qu'il dit de vous. Le cinéma de Gaspard Noé évoque parfois la prose de Céline jusqu'à dans ses plus haïssables excès. Seul contre tous, le film est dérangeant. Il est ennuyeux. Il est laid. Il est d'une violence parfois presque insoutenable. Au bout de tout cela, il possède une puissance incontestable permettant d'approcher la rage aveugle qui peut habiter des humains. Beaucoup d'entre eux sont jamais oublier ce qui en fait des humains. Un film impossible à aimer, mais tout aussi impossible à ignorer ou à rejeter. Je suppose que pour vous, c'est une bonne critique.
C'est une très bonne critique. Moi, d'ailleurs, effectivement, plus les critiques sont sulfureuses ou haineuses, plus ça me plaît. Une fois, quand Love était sorti, j'avais eu une critique dans les cahiers du cinéma, mais il y avait une insulte par ligne. Ils avaient pris une page entière. Et à chaque ligne, et il y en avait beaucoup, hein, parce que c'était 2 colonnes sur la page entière. Et je voulais en faire une affiche pour m'en rappeler. Juste pour que tu dis, voilà, c'est tes ennemis qui te motivent, c'est pas tes amis. Les amis, tu bois des verres avec eux, mais pour continuer à faire des films, il faut avoir des ennemis.
Pour revenir à Irréversible, la nouvelle version, celle qui sort aujourd'hui, une version intégrale, c'est aussi une occasion pour ceux qui ont vu le premier film de mesurer le temps qui est passé. C'est-à-dire, on se rend compte d'abord, effectivement, du couple glamour, Vincent Cassel et Monica Bellucci, et puis aussi de cette époque. Par exemple, il n'y avait pas de téléphone portable encore en 2002, ou du moins dans l'histoire que vous avez tournée en 2002.
C'est vrai que c'est moi, quoi. Effectivement, je n'avais pas revu Irréversible depuis 15 ans. Je l'avais vu il y a un an à la Cinémathèque, mais je n'aime pas regarder mes anciens films parce que je veux toujours les remonter, les remixer. Je n'ai pas revu Enter the Void depuis le jour de sa sortie. Je n'ai pas revu Love depuis la promotion du film. Mais comme il fallait que je vérifie la remasterisation d'Irréversible, je l'ai revu encore une fois après l'avoir vu à la Cinémathèque. Et derrière, j'ai fait le remontage. La seule chose qui est vraiment omniprésente aujourd'hui dans la vie, c'est les téléphones portables. Les gens ne peuvent plus s'en passer. C'est comme si leur cerveau était au bout de la main et qu'on pouvait le voler. Et à ce moment-là, on vous vole votre cerveau. Mais c'est pas très cinématographique un portable. Dans tous les films d'aujourd'hui, il y a des séquences où on lit les textos, mais c'est vraiment pas joli à l'image. Et c'est pour cela aussi que ce film paraît contemporain, à ce détail près qu'il n'y a pas de téléphone portable. Si on y fait attention, mais si on n'y fait pas attention, on dit tiens, c'est bizarre, personne n'a sorti son portable. Quand j'avais fait Climax il y a 2 ans, ça m'a arrangé que l'histoire se passait en 1995, parce que la même histoire n'aurait pas pu se produire 20 ans plus tard, parce que des personnes enfermées en train de devenir des personnes qui deviennent folles dans un lieu clos sont toutes collées à leur portable, envoyer des messages. Et ça aurait fait un film qui ne m'aurait pas plu. Quoi.
Et pour les vues aériennes, on voit bien que ce n'est pas les drones que vous avez utilisés en 2002. Je ne sais même pas si on utilisait encore les drones en 2002. On voit bien que c'est autre chose. Est-ce que vous voyez aussi qu'est-ce qui a pu changer techniquement dans le cinéma ?
Ce qui a beaucoup changé, c'est les systèmes de projection déjà.
Ouais.
Plus personne ne projette de films en 35 mm ou en 16 mm. Du coup, la pellicule a disparu des cabines des projections. Et même si aujourd'hui vous sortez des vieux films en 16 mm ou 35, il n'y a presque plus une seule salle à Paris qui peut les projeter à part la Cinémathèque. Il y a plein de films qui attendent leur remasterisation numérique, et c'était le cas pour Irréversible, pour pouvoir exister en salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a vraiment changé? Ouais, il y a les drones. J'adore les drones. J'en utilisais pour la première fois dans Climax. À l'époque, il y a quelques plans comme ça qui paraissent voler dans Irréversible, mais c'était tourné avec une grue et une tête gyroscopique qui faisait tourner la caméra. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, il y a un autre changement radical, c'est que les caméras numériques d'aujourd'hui permettent de filmer 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 2 heures, 3 heures, sans couper la caméra. Avant, il fallait que on arrête genre toutes les 3 minutes ou toutes les 12 minutes selon la taille des magasins de pellicules que vous mettiez dans la caméra. Et aussi, on voit le résultat immédiatement sur un écran. Du coup, c'est une grande chance pour le réalisateur parce qu'on sait si ce qu'on est en train de tourner est bien ou pas bien au fur et à mesure qu'on le tourne. Et aussi, on peut faire des tournages avec beaucoup plus de temps utile à la journée. Un film comme Climax que j'ai tourné en 15 jours, en 16 mm, j'aurais mis certainement deux fois le temps pour le tourner.
Et puis il y a un moment très émouvant en voyant cette nouvelle version d'Irréversible, c'est bien sûr l'apparition de Philippe Naon. Alors je sais très bien que ce film, vous l'avez monté avant son décès en avril dernier, mais on a l'impression dans cette nouvelle version qu'il est déjà dans le ciel, qu'il est déjà en haut, pendant que le film continue à se passer.
Philippe Naon est le comédien avec qui j'ai fait mes premiers films, Carn et Seul contre tous. C'était un diptyque sur l'histoire d'un boucher chevalin, un peu incestueux, sa relation avec sa fille, qui était pas vraiment, qui devient incestueuse à la fin, mais qui est surtout une sorte de déchéance psychologique d'un homme qui sait plus comment faire pour survivre. On avait pris tellement de plaisir à tourner le moyen-métrage Carn, qu'à peine fini, après quelques festivals, on avait décidé de faire une suite qui devait être un moyen-métrage, mais qui est devenu un long-métrage, qui est devenu Seul contre tous. Et du coup, mes deux premiers films étaient centrés sur le personnage joué par Philippe Naon, qui est devenu plus qu'un ami. C'était genre mon principal allié devant la caméra.
Votre acteur fétiche, on dit encore ça.
Oui, on dit un acteur fétiche, comme Todd Browning avec Lon Chaney, ou comme Scorsese
avec De Niro.
A commencé avec De Niro. Et pendant très très longtemps, je me suis dit, tiens, il faudrait que je refasse un épilogue à Seul contre tous. Mais en tout cas, si j'ai pu faire Irréversible à l'époque, c'est parce que Vincent Cassel, Monica Bellucci, Albert Dupontel avaient vu à la fois Carn et Seul contre tous. Ils adoraient les deux films. Et du coup, j'ai pu faire ce film comme un braquage, comme ça, en balançant le nom des comédiens. Et tac, on n'a pas de titre, on n'a pas de scénario, mais on a les comédiens et on a la date de tournage. Tac, le film s'est fait. Et je me voyais pas ne pas mettre Philippe Naon, avec qui j'avais grandi et cinématographiquement, ne pas faire partie du film. Et je crois qu'il, lui, il avait très très envie de jouer des séquences, que ce soit avec Vincent, avec Albert ou avec Monica, qu'il connaissait et qu'il aimait beaucoup. Et le tournage avait commencé. Et vers la fin du film, je me rendais compte que je n'avais toujours pas mis dans le film et je ne trouvais pas la séquence. Et du coup, on a tourné une séquence à la fin du tournage qui est comme un épilogue avec Philippe Naon et un ami à moi qui était réalisateur, un très grand réalisateur, mais qui avait fini en hôpital psychiatrique, que j'ai sorti de l'hôpital psychiatrique, et du coup ils improvisent un dialogue que je trouve fabuleux et qui était comme l'épilogue de l'histoire.
Philippe Naon,
il est décédé cet été.
Le 19 avril, à l'âge de 81 ans, des suites d'une sale maladie aggravée bien sûr par une infection à la Covid-19. Et quelques jours plus tard, vous lui rendiez hommage, Gaspard Noé, dans un texte publié par Libération. Je me permets de lire juste le début.
Philippe, mon grand ami, je viens d'apprendre que tu t'es éteint, que tu ne sauras plus, que ta mémoire et ta vie se sont fondues dans le grand vide, là où il n'y a plus de sens, ni de temps, ni d'espace. Je n'aurai plus la douce chance de te serrer dans mes bras comme il y a un mois, à la veille du confinement général. Depuis cet après-midi où nous avons pu rire une dernière fois ensemble, le temps s'est arrêté. Un ennemi invisible a fait de notre ville un étrange paradis fantomatique, mélancolique. On dort, on mange, on dort encore, on suit les infos, on compte les malades, on compte les morts, et aujourd'hui, ton nom s'ajoute à cette longue liste qui ne cesse de croître. On est comme dans un rêve, répétitif, auquel on croit sans vraiment y croire. Désormais, le temps qui t'a construit et qui m'a permis de te rencontrer continuera pour d'autres qui s'éteindront à leur tour.
Ce pays n'est pas le pays du fromage. Ce pays est comme un fromage. Un gros camembert qui pue, avec plein d'asticots grouillants à l'intérieur. Des petits asticots blancs, bien collabo. Heureusement pour le reste de la planète, ce fromage n'est pas très grand. Et ces asticots aussi méchants que trouillards n'en sortent pas, car ils savent qu'ils seraient vite écrasés. Le seul truc qui s'échappe un peu de ce fromage, c'est cette puanteur rance que les asticots appellent culture, et qui pue la mort. Malheureusement pour moi, je suis né dans ce fromage, et je vais certainement mourir dedans.
C'est bien sûr un extrait de Seul contre tous.
C'est la bande-annonce de Seul contre tous. À l'époque, il y a des gens qui ont dit « Ah, la voix off du boucher dans le film, ou dans la bande-annonce, est très célinienne ». J'avais pas du tout lu de livre de lui, Ferdinand Céline, avant de tourner le film. Mais c'est un peu la gouaille de tous les gens que vous croisez dans les troquets à 8h du matin et qui prennent des cafés Calva et que, voilà, qui disent des choses comme, je sais pas, une fois j'avais entendu un mec à côté de moi dire oui, la vie est une merde qu'on mange à la petite cuillère tous les matins. Et voilà, il y a des gens qui attaquent la journée comme ça.
Et aujourd'hui, Gaspard Noé, avec qui, parmi les créateurs, les intellectuels, les artistes, vous vous sentez le plus proche? Faut-il voir du côté du cinéma, c'est-à-dire Mathieu Kassovitz, Yann Kounen, Caro Higenet, de la littérature, Céline, on en a parlé, Virginie Despentes?
Oui, il y en a plein. Yann Kounen, comme vous avez dit, Virginie Despentes. L'autre fois, j'ai vu John Waters. Dans un festival, j'ai rencontré David Cronenberg. Oui, il y en a plein. Je ne veux pas en citer juste 5 parce que il y en a une.
Bon, est-ce que la famille s'agrandit avec votre prochain film qui sort le 23 septembre où Béatrice Dalle joue avec Charlotte Gainsbourg?
Oui, j'avais jamais travaillé ni avec Charlotte Gainsbourg ni avec Béatrice Dalle. Je les avais croisés, dit bonjour, au revoir, quelques fois dans des cocktails, mais j'ai eu cette chance inouïe de me faire proposer par Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint-Laurent, de faire un court-métrage avec des égéries de sa maison. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, j'ai dit ouais, bien sûr, je prends. Et il me dit, est-ce que tu penses que un court-métrage pourrait être prêt pour Cannes? Il dit, oh, c'est dans 3 mois. Mais bien sûr, on va l'écrire, on va le tourner, on va le monter, on va le montrer à Cannes. Et ce film qui était prévu pour être un 6 minutes, finalement, fait 52 minutes.
Et qui a pour titre?
Et qui a pour titre Lux Eterna. Et c'était encore une fois un plaisir énorme de le tourner. Et si le film il est vraiment réussi, c'est aussi à cause de la capacité d'improvisation fabuleuse de à la fois de Béatrice et de Charlotte Gainsbourg. Le film est repose vraiment sur elles deux.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et la nouvelle version d'Irréversible, Irréversible, en version intégrale de Gaspard Noé, sort aujourd'hui. Merci beaucoup Gaspard Noé d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci à vous.
L'esprit d'ouverture.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture. Des grands thèmes d'actualité déclinés tout au long de la semaine, une approche comparatiste pour saisir la diversité et la complexité du monde, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en 3 parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La prix Nobel de littérature biélorusse, Svetlana Alexievitch, est convoquée cet après-midi par les autorités de la Biélorussie. Symbole de la pression qui s'accroît sur le mouvement de contestation dans le pays. Nous irons dans la région dans un instant. À suivre aussi le tour des régions françaises qui ont décidé de donner des masques aux collégiens et aux lycéens. Le gouvernement, lui, a tranché. Ils ne seront pas gratuits. Alors que les masques, justement, seront obligatoires dans tout Marseille à partir de ce soir et pour un mois. Et puis, l'aide juridique des avocats sera-t-elle revalorisée? Il le demande en tout cas dans un rapport qui est remis aujourd'hui au garde des Sceaux. Et l'on commence donc avec cette attente, cette angoisse pour une prix Nobel de littérature. La Biélorusse Svetlana Alexievitch est convoquée à 15h dans les bureaux de la police de Minsk aujourd'hui. Elle doit y répondre des accusations de menaces contre la sécurité nationale, accusée en somme de s'opposer au président Loukachenko. Même si cela pourrait ne pas peser bien lourd, l'auteur de la supplication est soutenu par toute une partie du pays, Eric Biegala.
À l'école primaire, raconte Alena, la trentaine, on nous faisait lire ses livres, particulièrement celui sur Tchernobyl, la catastrophe nationale de l'URSS. Pour Roman également, lui aussi expatrié en Lituanie, Svetlana Alexievitch est une sorte de trésor national.
Elle représente la mémoire que nous devons garder en tant que nation de l'ancienne Union soviétique. Une mémoire que nous devons entretenir si nous voulons un avenir meilleur.
Le symbole que l'écrivaine représente est tel que nombre d'opposants, comme Natalia, la quarantaine, n'imaginent même pas que le régime puisse oser la mettre en prison.
Ce serait surprenant que Loukachenko s'en prenne à Svetlana Alexievitch. On sait qu'il est fou maintenant. Et s'il l'a fait arrêter, le monde entier comprendra à quel point c'est le fascisme qui règne dans notre pays. J'espère qu'elle n'aura que des sanctions. Mais tout est possible.
Hier, deux autres membres du Conseil de coordination avaient été pareillement convoqués. Ils ont chacun été condamnés à 10 jours de rétention et immédiatement incarcéré.
Eric Biegala, accompagné de Gilles Gallinaro, envoyé spéciaux en Lituanie, près de la frontière avec la Biélorussie. Et nous reparlerons du pays dans les enjeux internationaux avec l'invité de Julie Gacon qui nous propose une plongée ethnologique en Biélorussie ce matin. C'est à 6h45, dans moins d'un quart d'heure. Masque obligatoire pour toute la ville de Marseille. La mesure entre en vigueur ce soir pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités souhaitent surtout empêcher les regroupements de jeunes. Les bars, les restaurants seront donc fermés de 23h à 6h du matin jusqu'au 30 septembre. À Marseille, où donc 100 000 sur 100 000 habitants, 177 en moyenne sont testés positifs et c'est pour cela que le masque sera obligatoire. Sur 100 000 habitants dans le département des Bouches-du-Rhône, 131 habitants sont testés positifs en moyenne, 33 habitants sur 100 000 au niveau national. Des masques de plus en plus souvent obligatoires donc, et notamment au collège et au lycée. L'État toutefois n'en fournira pas gratuitement aux élèves, l'exécutif l'a précisé hier face aux demandes répétées de nombreux élus. Départements et régions vont pour certains prendre le relais en les distribuant d'ores et déjà, Sarah Tuchérer.
Sur les 13 régions de métropole, 4 ont à ce stade annoncé qu'elles fourniraient des masques à leurs lycéens. Carole Delga, en Occitanie, a été la première à réagir. Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse, en Ile-de-France et Renaud Muselier, dans la région Sud, lui ont emboîté le pas. Les offres se ressemblent, un ou deux masques en tissu pour chaque élève, pour permettre une rentrée dans de bonnes conditions sanitaires, sans que les familles n'aient à en supporter la charge financière. Les départements qui s'occupent des collèges ne sont pas en reste. Président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, s'apprête à équiper 88 000 élèves. Au passage, le socialiste n'oublie pas de tacler un exécutif qui, selon lui, ne prend pas ses responsabilités.
L'école dans notre pays est gratuite et obligatoire. Visiblement, le gouvernement l'oublie largement. Là, il s'agit d'une question de santé publique. Le masque, c'est la manière de se protéger collectivement. Comme les médicaments dits irremplaçables, ils devraient être pris en charge à hauteur de 100%.
Coût estimé 500 000 euros. L'État s'était engagé à prendre en charge la moitié du coût des achats de masques réalisés par les collectivités jusqu'au 1er juin dernier. Stéphane Troussel demande d'ores et déjà que cette nouvelle dotation soit elle aussi en partie remboursée.
Et le Premier ministre Jean Castex répondra peut-être à cette question ce matin chez nos confrères de France Inter. Il s'adressera ensuite au patron en ouverture de l'université d'été du MEDEF ce midi à Longchamp. Après le masque, c'est la carte d'identité qui est demandée en Suisse. À Genève, les autorités relèvent leur niveau de vigilance face à la recrudescence des cas de Covid. Pour un meilleur traçage des malades et de leurs contacts, le canton de Genève oblige désormais tous les clients des bars et des restaurants à donner leur nom, leur date de naissance et leur numéro de téléphone. Jérémy Lange l'a constaté sur place.
Alors c'est très simple, nom, prénom, numéro de téléphone. Et donc ensuite ça va vous envoyer un SMS avec un QR code. Et ce QR code il va être là dans tous les restaurants, tous les bars de Genève.
D'accord, ok. Déjà au fourneau et à la caisse, Victor Audry peut désormais ajouter technicien smartphone à son CV. Chez Hamburger Foundation, impossible en effet de commander sans avoir téléchargé un QR code. Il contient les noms, années de naissance et numéros de téléphone de chaque personne qui vient déjeuner.
De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'on est obligé de récolter toutes les données. Le plus important, c'est de faire un peu de pédagogie pour leur expliquer que c'est un système qui est beaucoup plus simple pour eux et pour nous. Et ça, contrairement à un formulaire papier, c'est beaucoup plus pratique.
Hier, facultatif, l'enregistrement pour les clients des bars et des restaurants est désormais une obligation, sans que ce soit perçu comme une contrainte par les professionnels. Johan Lemay est le patron du restaurant L'éléphant dans la canette.
Contrainte, pas vraiment, c'est assez simple à mettre en place. Après, ça nous permet de rester ouvert, ça nous permet de travailler, ça permet de rassurer les gens, je trouve ça très bien.
Alors que l'application nationale de traçage de contact peine à décoller, notamment à cause des craintes des utilisateurs pour la protection des données, ça ne semble pas être le cas pour le système appliqué au restaurant Genevois. Installé en terrasse, Stéphane et Mathieu n'y voient en tout cas aucun inconvénient.
Si on a contacté des gens avec du virus et tout, c'est normal qu'on prenne des précautions, c'est normal. Ça ne me dérange pas de donner mon téléphone en tout cas.
On est déjà localisé, scanné et suivi sur plusieurs applications, donc je pense que ça ne change pas grand-chose.
Seul le médecin cantonal peut accéder au listing. Ils sont systématiquement effacés après 14 jours sans contamination parmi les clients et le personnel des établissements.
Voilà pour les précautions prises contre le Covid-19. Mais que donnent les chiffres? L'Organisation mondiale de la santé note au niveau planétaire une diminution du nombre de nouveaux malades. Moins 4% en une semaine au niveau mondial, moins 12% pour les décès. Des données à prendre toutefois avec beaucoup de précautions, tant la situation varie selon les pays. Troisième soirée de manifestation dans le centre-ville de Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Des affrontements sporadiques ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Après que deux policiers ont tiré dans le dos d'un afro-américain, c'était dimanche. Jacob Blake, 29 ans, restera sans doute paralysé, c'est ce qu'a dit hier sa famille. Une grande marche contre les violences policières et pour l'égalité raciale est prévue à Washington vendredi. Des sacs de sable devant les portes, des fenêtres claquemurées, des évacuations par dizaines. Voilà le quotidien des habitants de la Louisiane et du sud du Texas en ce moment. Ils se préparent en fait à affronter l'ouragan Laura, dont les vents ultra-violents devraient toucher les côtes américaines dès ce soir. La météo en France métropolitaine, elle est beaucoup plus calme aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, vous l'entendrez dans un instant. Mais avant cela, nous nous penchons sur les revendications des avocats dans le pays. À 15h tout à l'heure, la commission Perben remet un rapport sur l'avenir de la profession. Rapport remis au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Selon les représentants des avocats, leurs conditions de travail actuelles sont-elles qu'elles nuisent aux citoyens, Thomas Larabi?
Oui, l'un des gestes les plus attendus concerne l'aide juridictionnelle, une aide de l'État qui paye les avocats quand leurs clients ont de faibles ressources, mais surtout une aide beaucoup trop faible, selon la présidente du Conseil national du barreau, Christiane Ferralschul.
Les missions d'aide juridictionnelle sont manifestement sous-payées. Je vous donne un exemple. Devant le tribunal correctionnel, vous arrivez à 256 euros. Qu'est-ce qu'on fait pour 256 euros? Il faut recevoir le client, consulter le dossier, préparer la plaidoirie, plaider le dossier, et il faut rendre compte au client. Donc, vous imaginez le temps que cela représente. Il y a une absence totale de prise en compte de ce que représente le travail de l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Avec comme conséquence possible à terme des avocats qui refuseraient de travailler pour l'aide juridictionnelle. Dans le même sens, Christiane Ferralschul espère qu'avec ce rapport, l'accent sera enfin mis sur les avocats de proximité, souvent oubliés ces dernières années.
Le combat pour les retraites a permis de révéler ce barreau de proximité, a mis en lumière un barreau qui est très proche du citoyen et qui gagne, oui, très mal sa vie. Mais ce sont des avocats extrêmement engagés. Et s'ils n'existaient pas, Je peux vous dire que l'accès au droit, l'accès à la justice n'existerait pas en France.
Et en ce sens, une mesure est fortement espérée, c'est l'application d'une TVA réduite à 10% sur les honoraires d'avocat.
Thomas Larabi pour France Culture. Je vous l'avais promise, voici la météo du jour ce mercredi. Le temps sera relativement ensoleillé après un voile nuageux prévu ce matin sur les régions du centre. La luminosité sera forte sur le sud-est avec 25 degrés à Nice et Perpignan, 21 à Biarritz, Lyon et Strasbourg, 18 degrés à Paris et Lille, 16 à Brest. 6h40, nous retrouvons Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour le journal des idées, ce matin, les médecins de l'hôpital de Berlin, Jacques, où est soigné l'opposant russe Alexeï Navalny, ont confirmé son empoisonnement.
Mais oui, monsieur Navalny se trouve dans une unité de soins intensifs et il est toujours dans un coma artificiel, précise le communiqué de l'hôpital, ajoutant que son état de santé est grave mais que sa vie n'est pas en danger. Les médecins redoutent des séquelles à long terme, en particulier dans le domaine du système nerveux. Les autorités allemandes ont appelé Moscou à faire la lumière sur cette tentative d'assassinat, mais après avoir été saisi dès le matin du 20 août par les proches de Navalny, la justice russe n'a toujours pas ouvert la moindre enquête. Et l'embarras du pouvoir russe se mesure à l'aune du silence assourdissant des politiques ou du ministère des Affaires étrangères, pourtant si prompt à réagir au moindre développement de l'actualité internationale, relèvent Thomas Vider et Benoît Vitkin dans Le Monde. Les médias dont certains avaient diffusé ces derniers jours des théories fumeuses sur l'alcoolisme d'Alexeï Navalny ou son régime minceur, jouent désormais les équilibristes. Et dans un sophisme dont elle a le secret, la directrice de la chaîne RT France estimait que la clinique de la Charité où Navalny est hospitalisé ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'on attendait d'elle. Benoît Vitkin développe dans un autre article du quotidien une analyse du système verrouillé qui éclaire le fait que depuis 20 ans, les agressions et meurtres à caractère politique commises en Russie contre des responsables politiques ou des journalistes ont en commun de rester sans coupable, la justice fonctionnant en l'occurrence comme un cul-de-sac. L'impunité, je cite, est plus qu'une décision politique, elle est un mode de fonctionnement. Par principe, on ne lâche pas les siens, les svoy, ceux des services ou de l'élite politique. Lorsque le Royaume-Uni, en 2007, désigna les responsables de l'assassinat de l'ancien agent Alexandre Litvinenko, la réponse de Moscou fut d'offrir un fauteuil de député au chef du commando. Quant aux conséquences diplomatiques en Europe, pour la Süddeutsche Zeitung, relayée par Courrier International, la chancelière Angela Merkel vient d'apporter une première réponse en plaçant Alexeï Navalny sous protection policière à l'hôpital de la Charité, démontrant ainsi qu'elle croit Vladimir Poutine capable de tout. L'affaire Navalny et l'engagement de Moscou contre l'atteinte à la vie d'opposants inconfortables comme instrument politique s'apprête à déterminer l'avenir des relations non seulement entre l'Allemagne et la Russie, mais aussi de la Russie avec l'Occident. Difficile de savoir si Poutine est lui-même le commanditaire, car en dénonçant la corruption des élites, Alexeï Navalny s'est constitué une longue liste d'ennemis personnels. Reste que le mode opératoire porte la signature des services, qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre ou d'une simple tactique d'intimidation, les empoisonnements sont presque toujours liés d'une manière ou d'une autre aux services de sécurité, souligne dans Mediapart la politiste russe Tatiana Stanovaya, et Mathilde Gohanek rappelle qu'Alexeï Navalny était jusqu'ici tenu à l'écart de la politique par les nombreux instruments à la main du président russe, la constitution, la justice, les services de police, pour ne citer qu'eux. Il a même dû, en juillet de cette année, fermer sa fondation sous la menace de sanctions judiciaires et administratives. C'est un cas de figure qui illustre le fonctionnement d'une dictature et d'une censure qui ne disent pas leur nom. La dernière livraison de la revue Communication est consacrée à la post-censure. À l'âge de la censure aurait succédé celui de la surveillance, à l'origine d'une autocensure croissante. Sont ainsi visées les opérations civiles, médiatiques, numériques, de neutralisation des énoncés ou des images jugées perturbateurs. Yoenis Krizanouski a enquêté sur sur les diverses formes de post-censure de la musique contestataire en Biélorussie et en Russie. Dans ces régimes autoritaires post-soviétiques, si l'aspect formel de la censure est évacué, ces aspects informels continuent à fonctionner. Interdiction de concerts, refus du soutien public ou privé, censure dans les médias, harcèlement policier et judiciaire, c'est ainsi qu'un large spectre d'acteurs peut jouer le rôle de censeur à un moment et dans un contexte spécifique. Lors de l'annexion de la Crimée par la Russie et de son implication dans la guerre en Ukraine, la quasi-totalité des concerts de groupes contestataires ont été interdits et leurs protagonistes victimes de violentes campagnes de dénigrement. Des mouvements patriotiques comme les Cosaques ont agressé les Pussy Riot et d'autres artistes ont été dénoncés sur des poster géant dans le centre-ville de Moscou. Dans la plupart des cas, les censeurs paraissaient agir d'une manière relativement autonome, ce qui accrédite l'idée d'une post-censure au caractère diffus et néanmoins structurel. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure de vous retrouver. Julie Gacon, bonjour. Pour les enjeux internationaux, au sommaire aujourd'hui, la Biélorussie côté campagne.
Oui, quand on parle de la Biélorussie depuis l'élection présidentielle du 9 août, c'est souvent pour évoquer la figure ambivalente de son président. Alexandre Loukachenko, réélu avec le score improbable de 80% des voix. Pour évoquer les opposantes et opposants en exil, pour évoquer encore la place particulière qu'occupe cette ancienne république du RSS sur les échiquier européen et eurasien. Ce qu'on connaît moins en revanche, voire pas du tout, c'est la Biélorussie des campagnes, celle que le président contesté passe son temps à sillonner ces deux dernières semaines de collectivité agricole en collectivité agricole. Aborder le système autoritaire au ras du sol, c'est le propos d'un livre qui, hasard du calendrier, vient tout juste de paraître. Bonjour Ronan Hervouet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie. Ainsi est titré ce travail au long cours aux éditions du Bordelot. Vous êtes maître de conférence en sociologie au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Et vous avez vécu en tout 5 ans en Biélorussie, où vous êtes retourné pour cet ouvrage, dans les campagnes, lieu tout à la fois d'un contrôle politique très fort, mais aussi d'un attachement sincère à un système, en l'occurrence au kolkhoz. Ronan Hervouet, comment les campagnes biélorusses ont-elles pu, elles, rester collectivisées même après la chute de l'URSS ?
Après la chute de l'URSS en Europe de l'Est et même dans l'ex-URSS en Russie, en Ukraine, à des rythmes différents, la terre a été progressivement privatisée. Mais Loukachenko a été élu dès 1994 en revendiquant l'héritage soviétique et donc il a maintenu dès 1994 le système de la campagne collectivisée. Aujourd'hui, moins de 5% de la production agricole nationale en Biélorussie relève du secteur privé. C'est très largement le secteur public qui produit l'agriculture. On peut juste ajouter qu'au niveau de la collectivisation, la partie orientale de la Biélorussie a été collectivisée dès 1929, dès les années 30 sous Staline. La partie occidentale était polonaise entre deux guerres et a été collectivisée après la Seconde Guerre mondiale de manière moins brutale que l'Est du pays.
Alors il faut se représenter des exploitations gigantesques puisqu'en moyenne, écrivez-vous dans votre livre, chaque entreprise fait à peu près 5130 hectares. L'idée, c'était quand même de parvenir à l'autosuffisance alimentaire pour assurer une certaine souveraineté. Est-ce que l'objectif a été atteint ?
Oui, tout à fait. L'objectif a été atteint. Moins de 10%, ou environ 10% des produits agricoles sont importés en Biélorussie. Sinon, il y a véritablement une souveraineté alimentaire avec des exploitations qui ont été agrandies depuis les années 90. Croissance de la production, maintien de la population rurale avec un ralentissement de l'exode rural. Donc, il y a eu une vraie politique très volontariste avec beaucoup d'investissements et de deniers financiers, de deniers de l'État pour soutenir les campagnes, avec un certain succès.
Voilà, la Biélorussie, elle dépend beaucoup du pétrole russe, elle dépend pas de son agriculture. D'ailleurs, c'est la Biélorussie qui exporte sa production agricole vers la Russie. C'est la 3e exportatrice mondiale de beurre, par exemple, puisque c'est l'heure du petit déjeuner. Ronan Hervouet, ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que l'enjeu de la campagne collectivisée, il est intrinsèquement politique. C'est-à-dire que le pouvoir doit aussi se déployer à la campagne.
Oui, il faut on peut rappeler que Loukachenko est issu du monde rural. Il a lui-même été directeur de Sovkhoz, donc de grandes fermes collectives soviétiques, et donc façonné, socialisé dans cette idée que c'était un succès de l'entreprise soviétique que de collectiviser ses campagnes. Donc pour lui, il y a véritablement l'idée d'un modèle économique avec certains succès, et puis un modèle social de développement développement des services publics à la campagne, et derrière cela, évidemment, la possibilité d'encadrer la population, de la contrôler, d'assurer la stabilité sociale. Et avec Loukachenko, il y a eu aussi une inflexion par rapport au monde soviétique, c'est qu'il a développé dès les années 90, enfin lui évidemment et ses collaborateurs, un nouvel imaginaire national pour une nation naissante, la Biélorussie, qui était jusqu'ici partie de l'Union soviétique, avec l'idée que c'était un monde de paysans. Et donc, il a aussi développé cette idée que la Biélorussie était fondamentalement un pays de paysans avec un folklore, etc.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dimanche dernier de ces images diffusées par les services de communication d'Alexandre Loukachenko, où on voyait le chef de l'État atterrir en hélicoptère dans l'enceinte du palais présidentiel à Minsk. Il était sanglé d'un gilet pare-balles avec un fusil automatique. Ce que vous racontez, c'est qu'il parcourt beaucoup, il survole beaucoup les campagnes par l'hélicoptère. Vous dites même qu'il exerce son pouvoir par actes spatiaux aériens.
Tout à fait. Il y a l'idée que pour contrôler ces campagnes collectivisées, qui souffrent de difficultés chroniques, comme à l'époque soviétique, avec des analogies d'ailleurs très fortes, pour les contrôler, pour que le système fonctionne, selon lui, il faut exercer ce qu'il appelle une pression administrative. Cette pression administrative, elle passe notamment par l'idée que tout peut être contrôlé à tout moment, et par le fait qu'il survole le territoire et qu'il peut se poser sur une entreprise collective, et puis tenser, menacer, sanctionner le directeur du kolkhoz qui n'aura pas respecté les recommandations du ministère.
Directeur du kolkhoz, lui-même nommé par un comité exécutif local, lui-même nommé par Loukachenko. Pour autant, est-ce que le système ne tient que par ça? Par la peur, par le contrôle, la verticalité. Un opposant de longue date au régime biélorusse, Alexandre Milinkevitch, ancien candidat à la présidentielle de 2006, disait récemment dans un entretien au Monde que la peur en Biélorussie, elle compose le système, que c'est pas tant la peur de finir empoisonné comme en Russie ou de finir à l'asile psychiatrique, mais il faut être loyal au pouvoir, disait-il, pour tout simplement avoir du travail. Dans votre livre, Ronan Hervouet, cette peur, elle est nuancée.
Le système repose sur la peur, mais pas seulement. C'est ça que j'essaie de montrer dans mon ouvrage. Le système, dans la durée, sur 25 ans, ne peut pas tenir que sur la peur, que sur la répression, que sur la violence et que sur le contrôle. Et en s'intéressant de manière sociologique, c'est-à-dire en faisant les entretiens, en rencontrant les personnes, en observant dans le temps long, en retournant voir les personnes rencontrées, en établissant des récits, on leur demande comment elles vivent, je leur demande comment elles vivent, et elles s'attachent aussi au système pour différentes raisons. Le système permet, même si c'est difficile de le voir de l'extérieur, quand on va à l'intérieur, on le comprend, elle permet de développer des formes de solidarité, et puis des formes de dignité, par l'ingéniosité, par la ruse, par le défi par rapport aux règles imposées. Bref, il y a des formes de réputation locale qui sont là et qui font que les personnes se disent que dans ce système, même si l'extérieur il paraît uniquement contraignant, dans ce système on peut vivre, selon eux, dignement.
Elles vous disent, ces personnes, que leur vie a du sens. Est-ce que, pour la plupart, les Biélorusses des campagnes sont russophones et russophiles, pour autant ?
Alors, dans les campagnes, il y a beaucoup de personnes qui parlent ce qu'on appelle la trashanka, c'est-à-dire c'est un mélange de russes et de biélorusses. Alors, c'est pas le biélorusse des intellectuels de Minsk, le biélorusse, la Tarashkevitcha, c'est-à-dire un biélorusse littéraire. Donc là, il peut y avoir des incompréhensions sur le biélorusse. Pour le monde intellectuel, cette trashanka, parfois, est un peu méprisée. Alors, sur la question de la russophilie, la question se pose... Enfin, sur mes terrains, la question s'est pas vraiment posée en ces termes. Il y a une espèce d'ambiguïté, puisque souvent on raconte dans les campagnes, notamment dans l'est du pays, on raconte que les arrière-grands-parents ou les grands-parents ont été déportés au moment de la collectivisation, donc avec une certaine défiance par rapport au pouvoir soviétique, et en même temps il y a un attachement à l'héritage soviétique qui est associé à la Russie.
Alors Ronan Hervouet, vous êtes retourné récemment en Biélorussie, mais beaucoup de choses se sont passées depuis, le coronavirus et l'élection présidentielle. Est-ce que cette crise de confiance qu'on raconte beaucoup à travers les manifestations à Minsk, dans la capitale et dans quelques autres villes, est-ce qu'elle a, d'après vos informations, aussi gagné les campagnes ?
Alors là, c'est difficile de vraiment s'établir des faits. Je garde des contacts, évidemment, dans le pays. Alors, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la contestation n'est pas seulement à Minsk, mais elle est en province, en province dans les grandes villes, mais aussi dans des petites villes. J'ai réussi à avoir des contacts avec des personnes qui sont interrogées, hein, des personnages qui reviennent dans mon livre, qui habitent la campagne. Certains ont voté Loukachenko, ne comprennent pas ce qui se passe, mais ont été extrêmement heurtés par les images de violence. Et d'autres, avec des profils un peu similaires, ont voté Tikhanovskaya et veulent du changement. Donc les frontières, jeunes, vieux, rural, urbain, ouvriers, agriculteurs, etc., c'est difficile à établir. C'est difficile de savoir dans quel degré il y a, à quel degré s'étend la contestation dans la campagne. En tout cas, il y a une défiance également qui existe.
On imagine que la grève n'est pas possible dans les kolkhozes, un secteur qui vit aussi beaucoup grâce à une intervention massive de l'État, contrairement aux usines que l'on a vu se mettre en grève pour certaines les unes après les autres.
Alors, dans les usines, on se met en grève, mais les contrats sont aussi faits avec l'État, et il y a une menace, une sanction possible qui est celle de ne pas être embauché. Donc les formes de contrôle entre le monde de l'usine et le monde des kolkhozes présentent des analogies. Il y a une forte vulnérabilité à la fois des ouvriers dans leurs usines et des kolkhoziens dans leurs kolkhozes. On peut ne pas les embaucher, on peut ne pas leur attribuer un logement, ne pas leur attribuer de primes, etc. Et en même temps, dans les deux cas, me semble-t-il, probablement, il y a des formes de dignité, des formes de travail valorisées qui se mettent en œuvre, qui se mettent en place, mais je connais pas de travail qui a été effectué dans le monde des usines en Biélorussie. Il y a eu de très beaux travaux sur les ouvriers russes par Karine Clément ou en Roumanie par Maria Grecu, mais là-dessus, évidemment, les sciences sociales doivent encore travailler pour établir des faits robustes.
Merci beaucoup Ronan Hervouet. En attendant, on peut lire, il faut lire le titre de votre livre, paru il y a quelques jours aux éditions du Bord de l'Eau, Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie. Je vous remercie beaucoup Ronan Hervouet. Et puis je signale qu'à 11h, Culture Monde de Florian Delorme reviendra sur la Biélorussie, faire entendre l'Europe face au Kremlin. Florian Delorme invitera Florent Parmentier, Olga Gilbelova et Michel Elchaninov. Merci à vous, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Au cœur des mécanismes de l'écriture, sur France Culture, la salle des machines, Mathias Hénard.
La salle des machines, ce sont des autrices et des auteurs qui viennent partager leur expérience d'écriture. Des romancières, des romanciers, des dessinateurs ou dessinatrices de bande dessinée qui nous ouvrent leur monde. Mettez un livre dans votre moteur.
La salle des machines, le dimanche à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Chaque jour sur France Culture à 10h, Les chemins de la philosophie par Adèle Van Rett.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
On n'est pas assez inquiet, c'est ça ? Si on trouvait une raison supplémentaire de s'inquiéter ?
Je vous trouvais trop sereine. Il y a peut-être d'autres personnes d'ailleurs qui trouvent la situation insuffisamment angoissante. Un transat face au Covid, une caipirina face à la crise économique, sans songer aux risques géopolitiques, à l'effondrement écologique. Bref, tous ces addicts à l'angoisse, le journal Le Monde a cherché à les apaiser, c'est-à-dire à les inquiéter, au travers d'un article consacré aux anti-masques en France. Alors, des anti-masques en France, il y en a, d'après cet article, 4200, voire 6900 dans un groupe Facebook intitulé « Stop à la mascarade ». Alors, sur Facebook, hein, je vous donne un ordre d'idée, et si on prend, par exemple, le groupe consacré au gravel bike, c'est-à-dire le vélo sur gravier, et il y a environ 7500 personnes qui participent. Mais, malgré tout, Le Monde a voulu savoir plus sur ce pas de monde. Il a donc interrogé sur la base du volontariat, 800 d'entre eux ont répondu. Et là, vous ne me croirez pas, mais parmi les anti-masques, Ceux qui ont voté l'ont fait à 27% pour Marine Le Pen et 19% pour Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, au vu de l'échantillon des pourcentages de votants, eh bien, le Rassemblement National et la France Insoumise sont pratiquement en phase avec la population française dans cet échantillon, donc de personnes hostiles aux masques. Tout ça pour dire qu'en France, aujourd'hui en tout cas, des anti-masques, il n'y en a presque pas, en tout cas la poignée que l'on trouve n'a pas vraiment de caractéristiques spécifiques. Mais la vraie question, la véritable énigme est plutôt celle-là. En France, pourquoi y a-t-il aussi peu d'anti-masques ? Une simple lecture de la presse aujourd'hui le montre. Non seulement les Français veulent des masques, mais ils les veulent gratuit. Nous sommes très loin de ces Américains, de ces Allemands qui descendent dans la rue pour réclamer le droit de se contaminer. Les Français de l'extrême droite à l'extrême gauche campent sur une ligne de radicalité sanitaire. Plus de confinement il y a quelques mois, plus de tests, plus de masques désormais. Tandis qu'à l'étranger, le Covid a nourri les complotistes. Chez nous, l'épidémie a créé 65 millions d'épidémiologistes. Les inquiétudes sont en nombre suffisant. Ces temps-ci pour ne pas en susciter de nouvelles dans les masques médias.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer le procès des attentats de Charlie Hebdo qui s'ouvre dans une semaine, 5 ans après les faits. Les suspects doivent comparaître devant une cour d'assises spéciale à Paris alors que les principaux accusés sont morts. Qu'attendre de ces 50 jours de procès ? Le procès Charlie, un procès judiciaire ou un procès pour l'histoire dans une quarantaine de minutes. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.